Tout de suite, l'économie hors du studio 521. Soyons fous, envisageons l'extraordinaire pour notre société de consommation française. Est-ce que l'obsolescence programmée peut un jour devenir un concept complètement ringard, disons même franchement obsolète ?
Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Je fais un reportage sur l'obsolescence programmée.
Oula. On va pas être agréable.
Ah oui, pourquoi ?
Je trouve que l'obsolescence programmée, c'est scandaleux. Je viens chercher un moteur pour une hotte qui a 4 ans. Et le moteur a lâché. Et c'est une hotte qui vaut 600 euros. Je viens voir si je peux commander un moteur, plutôt que de changer la hotte en entier. Ce n'est pas un manque d'entretien, ça m'étonnerait, je suis assez maniaque. Si on peut le réparer, je préfère réparer, pour m'éviter de racheter le produit dans sa totalité.
Vous êtes confiante, madame ?
De toute façon, c'est la seule solution, c'est ça, où je rechange entièrement la hotte. Et encore, je me demande si j'en mettrais 600 euros, parce que si ça doit durer 4 ans aussi, autant acheter du matériel bas de gamme, et s'il tient 4 ans, moi j'en aurais pour mon argent.
Est-ce que des industriels programment la mort de leurs produits ? En France, Apple, les iPhones, et Epson, les imprimantes, sont dans le collimateur. Ces entreprises seront-elles condamnées pour délit d'obsolescence programmée ? On verra dans quelques mois. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. On voit des procédures judiciaires similaires en Italie, en Corée du Sud ou encore aux États-Unis. Une partie des consommateurs a changé. Ils voulaient jeter et racheter du neuf, ils veulent faire durer. Certains industriels ont pris les devants. Les pouvoirs publics, eux, ils réfléchissent de leur côté à un indice de durée de vie sur les étiquettes. Ce matin, petite revue de ceux qui se battent contre l'obsolescence des objets. C'est le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Bonjour, Laetitia Vasseur, la cofondatrice et déléguée générale de HOP, halte à l'obsolescence programmée.
Vous avez réussi un beau coup récemment. Vous avez porté plainte auprès du... C'est le parquet de Paris, c'est ça ? Et c'est le parquet de Paris, ensuite, qui a ouvert une enquête pénale contre Apple suite à votre plainte. Qu'est-ce que vous avez mis comme élément dans cette plainte exactement ?
En fait, ce qu'on dénonce, c'est le ralentissement des téléphones en vue d'en racheter un nouveau. Apple l'a reconnu lui-même. Et puis, par ailleurs, on a des enquêtes qui montrent que les pics de ralentissement arrivent au moment où un nouveau téléphone sort sur le marché.
Est-ce que vous pensez que votre plainte va vraiment aboutir ?
La balle est dans le camp de la police de la consommation, la DGCCRF. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait condamnation si le juge décide qu'il y ait obsolescence programmée.
Une amende jusqu'à 5% de chiffre d'affaires, c'est ça ?
Tout à fait. Mais plus globalement, ce qu'on espère et ce qu'on demande à Apple, c'est qu'il change ses pratiques pour aller vers des produits qui vont être durables, réparables, à plus de 1000 euros un téléphone, on est en droit d'attendre des performances dans le temps. L'obsolescence programmée au sens large, on pourrait dire l'obsolescence accélérée ou prématurée, c'est vraiment un enjeu de société. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de lobbying auprès du gouvernement pour mettre en place des solutions.
Par exemple, comme lobbying ?
Par exemple, donc là, c'est la feuille de route économie circulaire. Nous faisons partie des parties prenantes très actives pour faire pousser des propositions comme l'affichage de la durabilité, savoir... Si je veux acheter une machine à laver ou peu importe quel produit, il faut savoir combien de temps il va durer, enfin en tout cas ce qui va être plus ou moins durable qu'un autre produit. On veut aussi que les pièces détachées soient disponibles et on veut que la réparation soit facilitée. Aujourd'hui, ça coûte souvent plus cher de réparer que d'acheter du neuf. On veut renverser la tendance et avec des outils du gouvernement, c'est possible. Cabinet Gosman avocat.
Oui, bonjour, Louis-Valentin Lopez, on s'interroge, j'ai rendez-vous avec Monsieur Gosman.
Oui, je t'ouvre.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Arnaud Gosman et je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement que j'enseigne également à l'université. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une loi environnementale que l'on a créé un nouveau délit, le délit pour obsolescence programmée, dont on parle beaucoup actuellement et qui concerne les fabricants d'un certain nombre de produits, dont les produits électriques et électroniques.
C'est quand même nouveau comme phénomène, ça, de voir des enquêtes ouvertes suite à des plaintes suite à obsolescence programmée, non ?
C'est vrai que c'est nouveau qu'une association dépose une plainte spécifiquement fondée sur le délit d'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est quelque chose de très précis que l'on confond souvent avec d'autres problématiques du type qualité du produit, mise à disposition de pièces détachées, tromperie, information du consommateur. Ça, ce sont des vrais sujets. Je suis désolé de le dire, mais l'obsolescence programmée, on est un peu dans la théorie du complot. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée que par avance, des fabricants voudraient nous pousser absolument à acheter un produit à la place d'un autre alors que l'ancien fonctionne très bien encore. Aujourd'hui, les possesseurs d'iPhone ont tendance à les renouveler très rapidement alors qu'ils fonctionnent encore. Il y a un effet de mode, un besoin d'avoir le tout dernier modèle avec les toutes dernières applications qui est bien plus fort. L'obsolescence, elle vient souvent du consommateur lui-même.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu une dimension opération de com dans ces plaintes ? Est-ce que c'est significatif d'un phénomène qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir ?
La communication est une chose importante. Il est arrivé que des entreprises se comportent mal et le fait de porter atteinte à leur image, je pense à certaines campagnes par exemple de Greenpeace, a été particulièrement bénéfique pour faire avancer la cause écologique. Le fait de menacer une entreprise de porter atteinte à son image peut parfois être un levier extrêmement puissant pour l'amener à changer ses pratiques.
Ça peut faire peur aux entreprises.
Bien sûr. D'ailleurs, bien plus que la plainte en justice. C'est plutôt la médiatisation qui accompagne la plainte qui peut faire peur à certaines entreprises. J'aimerais aussi qu'on parle des entreprises qui font des choses bien et qui s'améliorent et pas tout le temps que des entreprises qui sont susceptibles de mal faire les choses.
Alors, parmi ces entreprises qui font des efforts, on appelle mêle Michelin, Doc Martens ou encore le groupe Seb, leurs produits peuvent avoir des coups de mou, d'accord, mais on peut les remettre sur pied. On se rend chez l'un de leurs 250 réparateurs français. C'est dans les Yvelines, au Vésinet.
Bonjour, Louis-Valentin Lopez, France Inter.
Stéphane, technicien.
Contre le mur, il y a des fer à repasser, il y a des mixeurs, il y a des cafetières. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ?
On fait de la réparation et de la vente si les appareils sont pas réparables.
Atelier interdit au public, on est chanceux. Donc là, par exemple, il y a plein de produits. Par exemple, un fer à repasser. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu qui vous a amené ça ?
Alors, c'est un client qui nous a amené ça parce que ça faisait pas de vapeur. Donc, on a changé un collier, débouché le conduit d'arrivée d'eau.
Donc là, ça a coûté combien ?
Ça a coûté 39 euros.
Est-ce que vous pouvez me montrer un produit qui a coûté un peu plus cher à réparer ?
Celui-là. C'est un expresso où on a changé la résistance et il y en a pour 198 euros.
Ah oui, quand même. Et c'est tout de même plus rentable de faire réparer son objet plutôt que d'en racheter un neuf.
Parce que c'est des machines entre 5 et 600 euros.
Bonjour, je suis Alain Potreau et je dirige la politique de satisfaction consommateur pour l'ensemble des marques du groupe Seb. Donc on est ici chez un de nos réparateurs, un de nos 220 réparateurs français. Il y a effectivement énormément de produits de l'ensemble de nos marques, hein, pas uniquement Seb, on va trouver la totalité des marques, Tefal, Rowenta, Krups.
Comment se porte un peu la demande de réparabilité ?
Sur les 8 dernières années, on a vu plus 40 à 50% de gens qui viennent réparer un produit à leurs frais, qui sont intéressés de payer un peu pour réparer et garder leur produit.
Plutôt que de racheter un produit neuf.
C'est vrai que sur des produits à 500-600 euros, on va plutôt être au tiers du prix du produit en réparation. Sur des produits à 50-60 euros, on arrivera quelquefois à la moitié du prix, quelquefois jusqu'à 60-70%, mais même à ce niveau-là, les consommateurs ont envie de garder leur produit. Quand on fait des études auprès des consommateurs, ils nous disent que sur un produit qualitatif qu'ils ont acheté exprès, comme étant un produit de marque, ils attendent une durée d'usage entre 7 et 10 ans au minimum. Donc il est important de les accompagner sur ça.
Donc ça fait longtemps que Seb mène une politique plutôt acharnée contre l'obsolescence.
Depuis 2008, on a décidé que la réparation allait devenir un critère fondamental. Ça peut paraître une évidence, mais quand on répare un produit, on va déterminer quelle est la pièce qui a vraiment été à l'origine d'une panne, ou une pièce qui a lâché un peu prématurément, et on va pouvoir, sur la génération d'après, remplacer cette pièce, avoir une pièce plus performante. Donc réparer, c'est le meilleur moyen d'améliorer les produits. Si on se contentait de les échanger, forcément on accumulerait les pannes progressivement et on aurait des produits de moins en moins fiables.
Et réparer, ça rapporte. Le magasin voit passer 10 à 15 produits par jour et le chiffre d'affaires à la fin de l'année entre 350 et 400 000 euros. Mais à côté, il y a aussi ses start-up. Illustration avec Christopher Santerre. Son pari à lui, c'est construire une machine à laver championne de la longévité.
Là, juste sur notre gauche, il y a des machines à laver alignées contre le mur. C'est des increvables ou...
Celles qu'on voit là, c'est des machines à laver qu'on a démontées pour pouvoir les comprendre, voir comment on allait éventuellement pouvoir améliorer ce qui se fait déjà.
Donc là, on voit les vieilles machines à laver sur la gauche et à droite, donc une machine toute blanche, le fameux prototype de l'increvable. Qu'est-ce qu'il a de différent ?
On a commencé par enlever tout ce qui nous semblait superflu au fonctionnement premier d'une machine à laver, qui est de laver du linge. Deux exemples très concrets, le bac à lessive qu'on a supprimé parce que c'est une pièce qui n'est pas forcément très efficace en termes d'usage. On a tous tendance à surdoser, le surdosage de lessive peut entraîner le fait que la machine s'abîme plus rapidement. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié un dosage automatique. Vous allez avoir des réservoirs qui vont vous permettre de mettre une fois la lessive en début de mois, par exemple, et c'est la machine qui va doser automatiquement. Un autre élément qu'on a supprimé, c'est le joint qui fait le lien en fait entre le tambour et la porte. Un joint d'élastomère que la plupart d'entre nous connaissent assez bien, puisque c'est souvent dans ce joint-là que se coincent des sous-vêtements ou des chaussettes imbibées d'eau, et en fait, c'est d'une part pas très hygiénique. Souvent, dans ce joint, il y a de l'eau stagnante. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré en fait des machines à laver issues du milieu professionnel qui se dispensent de ce joint. Donc, nous, c'est une univers-là qu'on s'inspire pour amener un certain nombre de pratiques du milieu professionnel en termes de conception vers l'univers des particuliers.
Et quand est-ce que vous pensez avoir un prototype en état de marche ?
L'idée, c'est de l'avoir au premier semestre 2018, dans l'idée de proposer la machine en précommande d'ici la fin de l'année.
J'imagine qu'au départ, donc, la production sera assez confidentielle, donc vous ne pourrez pas faire d'économie d'échelle, et donc automatiquement, la machine à laver aura un coût plus élevé pour le consommateur, non ?
Nous, on vise un prix de vente 2,5 à 3 fois le prix moyen, qui est aujourd'hui de 380 € pour une machine à laver à ouverture frontale, pour une durée de vie qui sera à minima 2 à 3 fois supérieure, sur des éléments qui peuvent tenir en l'état 20 ans, et avec le fait de pouvoir réparer et améliorer facilement la machine, et notre objectif est d'aller bien au-delà des 20 ans d'utilisation.
Mais durabilité, réparabilité, tous ces concepts en « et » ne faut-il pas finalement les dépasser ? Eh bien, c'est ce que pense Philippe Moati. Il enseigne l'économie à l'université Paris Diderot.
Si on veut aller plus loin, c'est le modèle économique qu'il faut changer. Il faut sortir de cet enfer où la prospérité d'une entreprise dépend des quantités vendues.
Économie circulaire ?
Malgré tout, l'économie circulaire, c'est pas neutre hein, sur un plan environnemental. La collecte, le recyclage, la réutilisation, c'est encore des ressources qu'on va consommer. Il y a une perte, hein, une perte en ligne. La manière sans doute la plus radicale de faire face à ce problème, c'est de faire en sorte de passer à l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on ne vend pas le produit, on vend ce que le produit apporte au client. Donc on vend une solution, on vend une fonction, et le prestataire reste propriétaire des produits. Donc là, c'est formidable. On ne va pas tabler sur la prise de conscience environnementale ou citoyenne des entreprises. On s'appuie sur le moteur de l'activité dans une économie capitaliste, la recherche du profit. Et cette recherche du profit pousse ici, dans ces modèles économiques-là, à se montrer très respectueux des produits, des ressources que l'on mobilise.
Est-ce que la fin de l'obsolescence ne peut pas se révéler un désastre économique dans le sens où on ne pourrait plus relancer l'économie par la consommation parce que le produit sera indestructible ?
Eh oui, ce qui est vrai à l'échelle d'une entreprise est sans doute vrai à l'échelle de toute l'économie. Maintenant, vous savez, peut-être les besoins sont satiables, mais les désirs sont insatiables. Donc là, on peut faire confiance aux acteurs de l'économie pour trouver de nouvelles manières de relancer en permanence le désir. Alors, des nouveaux besoins à solutionner, et puis peut-être comprendre qu'au stade d'opulence auquel nous sommes parvenus dans les sociétés avancées, que la consommation elle, doit moins se situer sur le registre de l'accumulation d'objets matériels. Et peut-être que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire vivre des choses aux gens. Vous savez, les philosophes distinguent le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Le bonheur hédonique, c'est le petit plaisir, quoi. C'est exactement le plaisir qu'on a quand on va chercher son nouvel iPhone et qu'on ouvre la boîte et qu'on le met en service. C'est sympa, mais ça dure pas très longtemps. Le bonheur hédonique, c'est le bonheur qui est lié à la réalisation personnelle. Eh bien, je pense qu'on en est arrivé à un stade dans la consommation dans les pays riches où il est temps de passer du bonheur hédonique au bonheur hédémonique.
Peut-on espérer que l'obsolescence programmée deviendra obsolète ? C'était le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.